Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le plaisir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. La vie qu'il avait menée avait été la vie qu'il menait maintenant. Son esprit agissait de plus en plus au présent, comme s'il n'avait plus de passé. Bien sûr, il se souvenait de son passé et en parlait comme ça, comme si c'était le passé d'un autre. C'était devenu un autre homme, sans passé, sans avenir. Car de l'avenir, il n'y pensait pas, ou plutôt, ça n'existait pas pour lui. Le souvenir de son crime n'était plus qu'une grande douleur. Il aurait toujours, il y pensait toujours, et aussi il aimait toujours Odile, mais pas comme une maîtresse. Plutôt qu'un symbole du passé, son remords enveloppait toute sa vie. Et qu'est-ce que son avenir? Et puis, il y avait son crime. Au fur et à mesure que les mois passaient, l'amitié d'Alban et de Robert s'affinait. Ils avaient la même culture, les mêmes goûts, et un passé d'innocence en commun. Ce que disait Robert sur la foi troublait de plus en plus Alban. Un soir, ils étaient tous les deux allongés sur leur lit. Tu sais, Robert, un jour il pleuvait tellement que je suis abrité dans une église. Je suis resté un moment. Je m'étais assis et tout était calme. Il faisait sombre. Tout à coup, je ne sais pourquoi, je sentis une grande douceur, une grande paix m'envahir. J'étais heureux. Plus rien n'existait. Je n'avais ni passé ni avenir. Au bout d'un moment, mes yeux se fixaient sur une petite lampe rouge. Je ne pouvais plus quitter cette petite lumière rouge. Je ne sais combien de temps je suis resté ainsi. Lorsque je suis sorti de l'église, je ne comprenais pas ce qui m'était arrivé. Puis, le passé est revenu. Sur cela, beaucoup plus tard, je suis retourné dans cette église. J'étais attiré par quelque chose, une joie, un ancien bonheur que je n'arrivais pas à définir. Je suis rentré. Le même bien-être est entré en moi. Je suis resté un bon moment avant de partir. Je me suis demandé jusqu'où la quête de mon plaisir allait me mener. Quel était le plaisir suprême? Alors, un homme est venu vers l'autel et a allumé les cierges. Et peut-être un signe, un appel à la question, une réponse à la question. La réponse à ma question, oui. La religion, Dieu, ne peut pas m'apporter le plaisir suprême. Pour moi, le plaisir, c'est le plaisir. Mais aimer Dieu, c'est aimer l'amour divin. C'est la finition, la perfection de l'amour, puisqu'en aimant Dieu, tu engloutis tout. Oui, bien sûr, mais quel plaisir cela peut m'apporter? Le plaisir de la perfection, le plaisir d'être droit, le plaisir d'aimer l'amour, d'être un amour au plus haut degré. C'est aimer l'amour, pas l'amour représenté par un être, une chose, mais l'amour, c'est-à-dire Dieu. C'est aimer ce qu'il y a de plus parfait, de plus pur. Oui, mais je ne sais pas quel plaisir cela peut m'apporter. Dis-moi, toi, tes plaisirs, explique ce que tu ressens. Souviens-toi de ce que tu as ressenti les deux fois dans l'église. Ils se turent. Durant plusieurs jours, Alban ne parlait pas, ou très peu. Robert comprenait qu'il avait besoin de réfléchir. Et puis un jour, et toi, la foi, tu l'as connue comment? Oh, ça a été très simple. J'étais encerclé par les policiers. Je cambriolais un appartement. Les propriétaires sont arrivés à l'improviste. J'étais pas fier. Ils ont appelé la police. J'étais seul dans une pièce. J'avais une panique. Je savais que faire. J'étais peureux comme un enfant. J'avais une mère, j'aurais appelé maman au secours. Je tournais en rond dans cette pièce. J'étais comme fou. Tout à coup, je vis un crucifix. Je me suis mis à hurler malgré moi sans savoir ce que je faisais. Mon Dieu, aidez-moi! Au même instant, tomba à mes pieds un petit livre qui se trouvait sur l'étagère. Je le pris. Je sais pourquoi un grand calme m'envahit. Je me sentais malgré moi un autre homme. Pourquoi? Je ne savais rien. La porte s'ouvrit. Les agents me prirent. Ce livre était la Bible que je tiens à la main. Alban ne dit rien, tout s'embrouillait dans sa tête. Les semaines, les mois passaient, et un beau matin, il se leva, l'air léger, léger. Ne cherchait pas à savoir pourquoi. Dis Robert, tu veux me prêter ta Bible? Robert lui dit avec un grand sourire, oui, bien sûr. Alban, les premiers jours, lisait au hasard, comme ça. Il ne comprenait rien. Et puis, il demandait à Robert de lui expliquer. Robert et Alban lirent ensemble. Ils étaient heureux de faire communion ensemble. Puis, Alban se met à prier lui aussi. Il priait pour ses péchés, pour ceux qu'il avait fait souffrir. Alban se sentait bien. Il était un autre homme. Il se mit petit à petit à vraiment aimer Dieu de tout son corps. Il était arrivé comme les enfants. Et était sûr que la quête de ses plaisirs l'avait mené à l'amour de Dieu, mais est toujours inquiet de ne pas savoir aimer Dieu. Un jour, il demanda, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Dieu aime tous les êtres. Si on aime Dieu, notre amour pour lui se transforme toujours en amour pour toi. Alors Alban ne se posa plus de questions, se contenta d'aimer et se dit que c'était le plus grand plaisir qui soit. Monsieur de Condorcet fut très affecté et souffrit beaucoup de l'affaire de son fils. Il s'affaiblit et tomba malade. Après quelques mois de soins, il alla mieux. Ce qui lui permit d'aller demander grâce au président de la République pour son fils. Le président de la République était un de ses vieux amis. Je comprends, mon ami. Je comprends votre douleur. Et en plus, vous êtes seul. Si je vous demande grâce, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui. Et votre fils, le mérite-t-il? Peut-on demander grâce à un criminel? Au nom de quel amour? Celui de Dieu. Dieu aime les pécheurs. Mais pas les péchés. Ce qui veut dire, je ne devais pas regarder le péché de mon fils, mais mon fils qui a péché. Oui, je sais, je ne peux guère faire mieux. Il a obtenu une peine très raisonnable. Enfin, je vous promets de voir le dossier. Merci. Une semaine après, M. de Condorcet mourut d'une crise cardiaque. Un an après, l'emprisonnement de son fils. Alban était très affecté par cette mort parce qu'il pensait qu'il n'avait pas assez prouvé son amour à son père. Le président de la République fut ému par la mort de son ami. Il prit le dossier d'Alban, demanda comment il se comportait en prison. Alban, un matin, fut convoqué au bureau et dit que sa peine venait d'être remaniée et qu'il n'y aurait plus que 10 ans. Cela ne le toucha pas. Il était un autre homme. Il se sentait bien où il se trouvait. L'amour de Dieu l'accompagnait partout. Les années passaient très vite. Mais en même temps, ni vite ni lentement, Alban gardait la foi. Sorti de prison, c'était un autre homme, vieilli, blanchi, mais heureux. Les adieux avec Robert furent déchirants. Alban promit de l'aider après sa sortie. En sortant de prison, il avait tellement changé que son passé n'existait plus pour lui. C'était un autre homme sans passé. Se retrouvait seul, sans argent. La banque avait été prise par les dentours. Il dut se faire une nouvelle situation. Il se lança dans la vente et la fabrication de tissus. Grâce à l'aide de la banque, il se fit une fortune assez rapidement. Il vivait une vie très stricte. Il habitait un petit 2 pièces meublé, simplement, mais avec goût, pour lui. Dans un immeuble, boulevard Saint-Germain. à part son travail, ne sortait pas, restait chez lui, lisait la Bible et écoutait de la musique sur un vieux phonographe. Les femmes ne l'intéressaient plus. Et puis, il avait tellement vieilli. Il n'allait même plus au restaurant. Il avait pris une vieille bonne bretonne. Dans le quartier, on le prenait pour un homme sérieux. Le dimanche, il allait à la messe, car il pratiquait la religion catholique. Se disait que Dieu avait nommé Pierre chef de son église et qu'il fallait obéir à Dieu. Et comme Pierre était le premier pape catholique, alors... Bouton s'attend, comme il avait suffisamment économisé, il s'arrêta de travailler. Il fit la connaissance d'Apolline, une femme de son âge, grande, blonde et douce. Il a pour elle un amour tendre, une tendre amitié. L'épousa. Pour en faire son bonheur et le sien. Et pour sortir tous deux de la solitude.
Mes chers frères, nous voici réunis ici sous le regard de Dieu afin d'unir dans le Saint-Sacrement du mariage cet homme et cette femme.
Ils eurent des années de bonheur jusqu'au jour où le passé d'Alban réapparut. Il avait suffi d'une apparition, d'une phrase, et tout lui est revenu en mémoire. Ce fut un rude choc pour lui. La peur, le remords. Il habitait Belcordier, dans un petit village près de Chambéry. une petite maison blanche avec un jardin. Ils avaient une bonne, une gouvernante, une vieille fille, Amélie. Et tout avait commencé un matin où ils rentraient de la messe, ils rentraient chez eux.
Je trouve que monsieur le curé a très bien parlé, très bien prêché. Pâques est très réussi cette année, avec ce ciel bleu et toutes ses couleurs, ces arbres en fleurs et les enfants à l'église. Vous avez vu, c'était charmant, avec leurs robes et leurs chemises blanches. Quelle pureté! L'église était à l'intérieur, toute baignée de soleil et ses chants. Dieu que c'était beau! Vous ne trouvez pas, mon ami?
Si, mon ami, mais je suis surprise que vous parliez avec autant de chaleur de choses aussi anodines. D'habitude, en revenant de la messe, vous ne parlez que du prêche, du père, ou de prière.
Mais ça ne m'a pas empêché de prier.
Quelle est cette femme qui vous a interpellée à la sortie de l'église? Elle avait un mauvais genre. Comment s'appelait-elle déjà?
Lucie, où est Amélie?
Madame attend monsieur au salon.
Bien.
Et il se dirigea pour aller au salon. Alban était devenu un grand homme, gros, visage agréable, avec cheveux et barbe blanche, beaucoup de cheveux et de barbe blanche. Il portait un costume gris et avait à la main une canne et un chapeau de paille.
Mon ami, vous ne m'avez pas répondu.
Il se retourna et vit sa femme. La femme était plutôt grande et grosse, cheveux blancs, visage très féminin, très un peu triste, robe à fleurs et à la main un sac blanc.
Tout à l'heure.
Non. Et il se tourna vers sa gouvernante.
Alors, Amélie, comment allez-vous?
Très bien, monsieur.
Bien, nous allons dans notre chambre nous mettre à l'aise,
dit-il. Et ils allèrent à leur chambre. Ils montèrent à leur chambre. Alors, ferma la porte et posa son visage avec un mouchoir. Il soupira et dit:
que m'arrive-t-il? Je vais tout de même pas me mettre à mentir. J'ai un passé. Soit.
Il posa encore son visage.
J'ai fait surprise sûrement ça. Cela va aller.
Maintenant, il regarda autour de lui. Il fut satisfait de ce qu'il voyait. Les murs de la pièce étaient crépis à la chaux. Pour meubles, il avait un lit, une chaise et un petit bureau. Le tout en chêne massif. Au-dessus du lit se trouvait un crucifix. Tout simple, en bois, avec par-dessus
un Christ dessiné sur d'ivoire. Malgré sa simplicité, la pièce n'avait rien d'austère, qui aurait dû donner une grandeur, une élégance, une fraîcheur. En y entrant, on avait l'impression de se purifier. Il ouvrit le placard qui se trouvait dans le mur pour y déposer son chapeau, sa canne. Puis s'assit sur une chaise, l'air songeur.
C'est simple pourtant, j'aurais qu'à tout lui dire. Mon Dieu, pourquoi est-ce si dur?
Il prit sa Bible, s'était posé sur son bureau et l'ouvrit au hasard. Il lut, puis ferma le livre. Se leva, sortit de sa chambre, pour aller frapper à la porte de la chambre de sa femme. Une sensation de fin de vie, de cette vie qui avait commencé avec elle. Il frappa. Pas de réponse. Une seconde fois, ouvrit la porte. La chambre était vide. Mis du temps. Il était au salon, elle était au salon avec Amélie, toutes deux assises sur un canapé.
Mon ami, j'aimerais vous parler, dit-il.
Il s'approcha de sa femme. Plus tard, nous avons des invités pour quelques jours. Les Dutour ont téléphoné. Ils sont enfin décidés. Nous sommes en train de discuter les arrangements à faire à cause de cette visite inopinée. Car bien entendu, nous serions obligés de les garder quelques jours chez nous. Oui, je sais, mais que voulez-vous? Ils font 1000 kilomètres pour venir jusqu'à nous.
Mais je serais très heureux de revoir mon vieil ami Alain, si vous permettez. Mon ami, j'aimerais pouvoir me reposer un peu avant leur arrivée.
Allez-y, mon ami. De toute façon, nous n'avons pas besoin de vous. Oui, un peu de repos vous fera du bien. Vous avez l'air un peu troublé ce matin. Vous n'êtes pas bien?
Si, mais je vous dois des explications pour...
Sur quoi?
l'incident de la matinée, vous savez.
Lequel? Je m'en souviens plus.
Elle regardait sa montre.
Oh, déjà! Vite, Amélie! Nous allons voir à la cuisine.
Agenouillée auprès de son lit, la tête entre ses mains.
On frappa à la porte.
Il referma et retourna la tête et dit
« Oui ?»
Et entendit à travers la porte « Monsieur, les invités sont arrivés !»«
Bien, je descends. »
Avant de descendre, il ouvrit la Bible encore une fois au hasard, lut. Puis, sortit de sa chambre. Il les retrouvait dans l'hall d'entrée.
Mes amis, que je suis venu, comme je suis heureux de vous recevoir.
J'espère que l'on ne vous dérange pas. Nous sommes passés comme ça, nous avons décidé, c'est de la dernière minute.
Oui, je prépare un livre sur Henri Bell et je me suis rendu compte que j'avais besoin d'étudier certaines notes à Grenoble.
Non, vous ne dérangez pas. Ça fait si longtemps que nous sommes vus. Montrez-moi comment vous êtes. Vous n'avez pas changé.
Il vit devant lui un homme de 70 ans, grand, mince, visage agréable, cheveux et petites moustaches grisonnantes. Une femme à ses côtés, visage souriant, plus petite que lui, mince, cheveux gris.
Non, vous n'avez pas changé. Toujours aussi jeune et beau.
Vous exagérez. Nous ne sommes plus de la première jeunesse.
Ça fait combien de temps que nous ne sommes pas vus?
Je me souviens.
Oui, ça devait être à Deauville, l'année où Alain a eu son poste à l'ambassade de Hongrie.
Il y a de cela 12 ans déjà.
Eh oui, 12 ans déjà. Vous permettez, je vais vous conduire à votre chambre.
Vous pourrez vous y mettre à l'aise.
Venez, ma chère Éléonore, dit Madame de Condorcet.
Je vous remercie,
mon ami. Ce voyage nous a éreintés. Je suis dans un état. Regardez mes chaussures et mes vêtements.
Ma bonne s'occupera de vous. Madame de Condorcet prit le bras de son amie pour la conduire à sa chambre qui se trouvait à l'étage. Les deux messieurs suivirent ces dames.
Tu sais, je fume la pipe maintenant, dit Alain.
Tu fumais pas? C'est l'ennui qui te fait fumer, demanda Alban.
Non, je ne m'ennuie pas du tout. Après ma mise à la retraite, j'ai commencé à écrire. Et tu sais très bien que écrire des biographies, ça occupe beaucoup. Ça donne beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps et de travail. La preuve, c'est que je suis obligé, c'est de souvent me déplacer.
Voici, vous êtes chez vous,
dit Madame de Condorcet. La chambre était petite, très agréable.
Nous allons maintenant vous laisser vous reposer. Vous pouvez prendre votre repas quand vous le désirez. Nous ne savons pas comment vous remercier de tant de peine, dit Monsieur Dutour.
Monsieur et Madame de Condorcet quittèrent la pièce.
Je trouve cette chambre tout à fait ravissante. Tu ne trouves pas?
C'est pas à moi qu'il fallait le dire, mais à eux.
Oui, je sais, mais je n'y ai pas pensé. Et toi, pourquoi ne leur as-tu rien dit? Demanda-t-elle.
C'est pas mon rôle de le dire, dit-il agacé.
Les quatre étaient attablés dans la salle à manger pour déjeuner.
« Vous savez, ma cuisinière a été prévenue qu'à la dernière minute. Ne vous attendez pas à des choses extraordinaires. Ce sera un repas tout simple, presque familial. »«
Oh, nous vous remercions, ma chère. Nous n'aimons que les choses simples.
Vous avez raison de dire que c'est un repas familial. Nos deux maris... ce sont comme deux frères.
Il est vrai, dit Alban, qu'à Saint-Michel, nous étions traités par nos camarades et amis comme deux frères.
Tu te souviens la première fois que nous nous sommes vus?
C'était à mon premier jour d'école. J'avais 6 ans. Je me trouvais seul, isolé au milieu de tous ces élèves. Qui courait, criait dans cette grande cour grise. Pour ne pas être bousculé, je m'étais mise le dos au mur. Au bout d'un moment, je sentis qu'on me prenait la main. Je me retournais et je vis un petit garçon de mon âge. Je suis resté ainsi, main dans la main, durant toute la récréation.
« C'est beau !» dit Eleanor. Tu ne dis rien, Alban?
Ça ne va pas? Demanda sa femme.
Oui, je pensais à un poème de Baudelaire.
Faudra que j'écrive quelque chose sur lui. Le Baudelaire nous a de notre adolescence, tu te souviens, Alban? Nous le lisions en cachette dans nos chambres, la nuit, caché sous les draps.
Oui.
Le repas se continuait. Alban suivait de moins en moins la conversation. Son esprit était ailleurs. Après le repas, les deux dames allèrent au jardin. Alban et Alain étaient seuls au salon, assis sur des fauteuils.
Tu es toujours dans tes dévotions?
Oui, toujours. Avec l'amour de Dieu. J'ai
J'essaye une vie simple et pure. » Alain regarda autour de lui et vit que la pièce était d'une très grande propreté et simplicité. Grande bibliothèque, un petit bureau, une chaise et deux fauteuils. Les meubles étaient en bois robuste. Les murs étaient tapissés en papier beige uni. Un tableau tout simple avec le visage de Marie. Il regarda son ami et vit que le décor correspondait à ce qu'il était devenu. Je croyais que tu priais à table avant chaque repas.
Non. Pour prier, je me retire dans ma chambre.
Et la Bible, que t'apporte-t-elle?
La vie, l'espérance, l'amour.
Et tu trouves tout cela dans ces histoires?
Ce ne sont pas des histoires, mais je trouve tout cela dans la Bible, car je la lis avec foi.
Ta foi était si soudaine et en contradiction avec la vie que tu menais. Alban sourit. Il avait l'impression de passer un interrogatoire. Amical, bien sûr.
Oui, mais je ne suis pas le seul à qui cela est arrivé.
Et pourquoi ce changement? Si c'est si soudain, c'est à cause de là qui l'a pris.
Non, je l'aurais malgré tout, tu comprends? J'avais besoin de plaisir, de nouveaux plaisirs. Et c'est par cette recherche du plaisir, la joie, que je suis devenu croyant. Et ma quête au plaisir qui m'a abouti à l'amour de Dieu, avec Dieu. Vivre avec Dieu, se laisser guider par lui, c'est ça le bonheur suprême.
Et que pense ta femme de tout ça? Alain prit sa pipe de sa poche pour l'allumer.
Lorsque je l'ai connue, j'avais déjà la foi.
La porte du salon s'ouvrit. Apparurent les deux femmes. Elles demandèrent si ces messieurs voulaient bien les accompagner faire une promenade dans le pays. L'après-midi était déjà bien avancé, mais le ciel était encore bleu et le soleil restait chaud. Ils prirent une petite carriole conduite par un cheval comme un air paysan. La route les conduisit dans une forêt.
nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Plaisir. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.